Et nous allons ouvrir donc la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17 et relire les six premiers versets. Apocalypse 17, et nous allons relire les versets 1 à 6. Et Jean, donc l'apôtre Jean, écrit ceci. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons commencé, donc nous avons vu la première partie, nous avons vu ce passage, nous avons vu que ce passage décrit le monde et le système de ce monde comme une prostituée. Premier mot sur la feuille, comme une prostituée assise sur la bête. Et nous avons souligné plusieurs choses. Je vais en rappeler simplement certaines. Nous avons dit donc que cette prostituée décrit le monde, décrit le système de ce monde, et le but de ce monde est de séduire, séduire tout homme. Elle est habillée d'une certaine manière pour attirer l'attention. Elle porte une coupe dans sa main qui décrit ou qui semble vouloir dire que, étant donné que la coupe est d'or, son breuvage devrait être d'une certaine qualité, mais au contraire, son breuvage est terrible. Cette coupe est remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. On dit que ce système aussi de ce monde veut être adoré, veut recevoir l'adoration, veut prendre la place de Dieu. Et c'est le rôle de la bête qui a sept têtes, qui a dix cornes. Nous avons une autre description un peu plus tôt dans le livre de cette bête. Il veut prendre la place de Dieu et la prostituée. Le système de ce monde est assis sur la bête. Il y a cette alliance entre la bête qui décrit toutes les puissances tyranniques représentées au 1er siècle par Domitien, l'empereur romain, mais tous les systèmes tyranniques, tous les empires tyranniques de ce monde qui cherchent, qui veulent recevoir l'adoration. Et il y a cette alliance entre la tyrannie et l'immoralité. L'immoralité de ce monde. Mais nous avons aussi souligné que nous ne voulons pas être anti-monde, dans le sens que tout ce qui porte la marque du génie de Dieu est digne d'être apprécié. C'est pour ça qu'on peut apprécier, par exemple, certaines valeurs que l'on peut voir dans le sport, ou on peut apprécier une bonne musique, une belle musique, et pas nécessairement, et pas uniquement ce qui est accompli par des chrétiens, même des non-chrétiens peuvent encore faire des choses qui méritent d'être appréciées, parce qu'il y a encore quelque chose de l'image de Dieu qui est en eux. Mais voilà, cette vision nous est donnée pour que nous voyons ce monde tel qu'il est, pour que nous voyons le système de ce monde tel qu'il est. le système qui règne dans ce monde est veut séduire, veut attirer, mais son but est de détruire. Son but, c'est d'enivrer ou dénivrer les habitants de la terre avec le vin de sa débauche, afin qu'ils soient tous sous son contrôle. Et dans ce passage, il y a plusieurs allusions à la ville de Rome comme un symbole, comme un modèle de ce phénomène. Nous avons dit que ce passage décrit la bête que nous avons vue dans le livre de Daniel, et la bête avec 10 cornes, et qui était clairement une illustration de Rome. Le terme de Babylone est utilisé dans le Nouveau Testament comme un code pour décrire Rome. Par exemple, Pierre, dans sa première lettre au chapitre 5 et au verset 13, dit ceci: l'Église des élus qui est à Babylone vous salue. Mais Pierre n'est pas à Babylone. Babylone, de toute façon, la ville est sous un désert à cette époque-là. Pierre est à Rome et il utilise le nom de Babylone comme un code pour parler de Rome. Au verset 9 de ce chapitre 17 d'Apocalypse, nous verrons les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Une description très imagée, très réaliste, enfin, très, oui, très imagée de Rome, assise sur 7 collines. Mais Rome est utilisée comme un symbole, comme un modèle du système qui domine dans le monde, avec sa puissance politique, sa puissance économique, sa puissance militaire, sa puissance culturelle. Mais dans toutes les générations, dans toute l'histoire, on a d'autres puissances qui ont suivi. Le verset 1 décrit cette femme, cette prostituée, comme étant assise sur de grandes eaux. Et nous verrons un peu plus tard dans le chapitre, verset 15, que les eaux sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et cela va décrire donc l'influence, deuxième mot sur la feuille, l'influence de Rome et l'influence de ce système, l'influence de Rome au 1er siècle, mais l'influence de ce système, de ces royaumes, de ces empires qui ont suivi, de l'influence dans ce monde. Rome est un symbole qui est bien choisi. Et en particulier parce que ce modèle va répondre de deux manières à la question suivante, à la question: à quoi le chrétien peut-il s'attendre de la part du monde? Et Rome est bien choisi parce que Rome va répondre à cela de deux manières. Nous avons vu l'importance donc de voir comment de voir le monde pour ce qu'il est. Une prostituée qui veut séduire. Mais la question donc, la deuxième question, c'est: à quoi peut-on s'attendre de la part du monde? Et l'Église du 1er siècle pouvait s'attendre à deux choses de la part de Rome, et l'Église d'aujourd'hui peut s'attendre à deux choses de la part du monde et du système dans ce monde. La première chose, c'est la persécution. Troisième mot sur la feuille. L'Église ne devait pas oublier ce qui s'était passé au jour de Néron. Comment Néron a porté la souffrance, la persécution sur les chrétiens à Rome. Et maintenant, c'est Domitien l'empereur. Mais les croyants allaient faire face à des choses similaires. Ils allaient connaître la persécution. Rappelez-vous, nous avons dit que l'empereur allait mettre des statues à son effigie. Il allait exiger qu'on lui rende un culte, qu'on l'adore lui, comme Dieu. Et bien sûr, les croyants n'allaient pas le faire et ils allaient donc connaître la persécution. pour cela. Et les chrétiens aujourd'hui connaissent la persécution dans différentes parties du monde. Mais la deuxième chose à laquelle les chrétiens à Rome devaient s'attendre, c'est la corruption, quatrième mot sur la feuille, la corruption morale. Et nous l'avons déjà souligné, le système de ce monde est représenté par cette prostituée qui décrit déjà, rien que ce terme parle de corruption, parle d'immoralité. Et de débauche. Rome, d'après les commentateurs au temps de l'apôtre Jean, au 1er siècle, était décrit comme étant un lieu où on pouvait trouver les pires débauches possibles. L'historien Tacite, par exemple, décrit Rome comme le lieu où toute la débauche du monde était concentrée. Et un exemple qui est souvent cité est celui de Messaline. Messaline est la troisième épouse de l'empereur Claude. Et a priori, elle a la réputation d'avoir passé toutes ses nuits en offrant son corps dans des maisons closes. Et cela souligne ce qui se passe. L'élite de la société donne l'exemple, mauvais exemple, et amène la société dans une voie de débauche. Et l'Église doit s'attendre à cette réalité de la part du monde quand on regarde nos responsables politiques aujourd'hui. Ils vivent en couple, ne sont pas mariés, ont eu des affaires, etc. Ils font la promotion du mariage pour tous. Certains défendent et vivent même dans l'homosexualité. Ils donnent cet exemple et ils emmènent la société dans la voie de la corruption morale. Le monde, donc, a deux stratégies. Et nous allons développer cela. La première stratégie, donc, premier point, la persécution. Et le verset 6 décrit cette femme comme étant ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en voyant cela, Jean fut saisi d'un grand étonnement. Les saints et les témoins de Jésus ne sont pas, comme certains voudraient le faire croire, deux catégories de croyants. Non, les termes décrivent l'ensemble des croyants, l'ensemble de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est saint, ils sont saints, ils ont été sanctifiés, et ils sont là pour vivre pour Christ. Ils sont les témoins du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Jean est horrifié, il est attristé de voir que le peuple de Dieu doit souffrir, cinquième mot sur la feuille. Il doit souffrir pour s'avoir fait et pour avoir défendu ce qui est juste. Et c'est la question, et c'est la réalité aujourd'hui. On se pose parfois la question, pourquoi doit-on souffrir à cause du fait que l'on veut honorer Dieu, parce que l'on veut témoigner pour le Seigneur Jésus-Christ? Et la réponse, elle est là, tout simplement. On souffre à cause du monde dans lequel on vit. Ce monde qui est opposé, ce monde n'est pas neutre. Ce monde est opposé au Seigneur Jésus-Christ. Ce monde est là pour persécuter. Et d'une certaine manière, nous ne sommes pas dans une situation si différente que la situation de Joseph. Rappelez-vous, quand il est emmené en Égypte. Et nous sommes appelés à suivre l'exemple de Joseph. Joseph est amené dans la maison de Potiphar, et la femme de Potiphar a cherché à le séduire. Joseph a fui. Mais qu'est-ce que la femme de Potiphar a fait ensuite? Elle a porté de faux témoignages contre Joseph, et Joseph a été mis en prison. Et c'est la même chose aujourd'hui. Un commentateur le résume en disant: n'étant pas satisfaite avec ce qu'elle contrôle déjà, et étant incapable de séduire les élus, la prostituée va sans cesse tourmenter et tuer les saints, afin que leur sang soit versé sur la face de la terre. Étant pas satisfaite avec ce qu'elle contrôle déjà, mais étant incapable de séduire les élus, la prostituée va sans cesse tourmenter et tuer les saints, afin que leur sang soit versé sur la face de la terre. Et on voit cela aujourd'hui, la persécution est répandue sur toute la surface de la terre. Certains ont dit, alors, malheureusement, je n'ai pas pu vérifier, mais la source est quand même assez sûre, que le nombre des chrétiens, alors, c'est pris dans un sens global, mais le nombre des chrétiens tués au XXe siècle est supérieur au nombre des chrétiens tués au cours des 19 siècles précédents. Et le 21e siècle est bien parti pour dépasser le 20e siècle. Ça se passe en Asie, ça se passe en Afrique, essentiellement. Mais Jean, en voyant cela, il est saisi d'un grand étonnement, il est horrifié en voyant le sang des chrétiens, des saints qui éclaboussent les habits de la prostituée. Mais même si la persécution est terrible, et c'est une épreuve, nous ne souhaitons pas la persécution. C'est quelque chose qui est terrible quand on doit la subir, quand on doit traverser ces moments. Il faut aussi quand même souligner que la persécution n'est pas une stratégie très efficace contre l'Église. Parce que même si la persécution fait souffrir les chrétiens, la persécution fortifie l'Église. Sixième mot sur la feuille. Elle va fortifier l'Église de deux façons essentiellement. D'une première manière, elle va écarter les faux chrétiens, les pseudo-chrétiens. Que se passerait-il si en France, on devait connaître une persécution semblable à ce qui se passe en Chine ou en Corée du Nord ou en Afrique, d'autres pays en Afrique. Beaucoup d'églises qui se vantent d'avoir de grands nombres seraient quasiment vides. Parce que ceux qui se contentent de simplement quelques sentiments religieux ne vont pas tenir au jour de la persécution. Ils ne vont pas tenir comme la maison que nous avons lue tout à l'heure en Matthieu 7, qui n'est bâtie que sur du sable. Elle a l'apparence d'être solide, mais puisqu'elle n'est pas bâtie sur le roc, elle va être enlevée, soufflée. Beaucoup dans le monde évangélique, aujourd'hui, si les personnes qui se disent évangéliques étaient arrêtées à cause de leur profession de foi, est-ce qu'il y aurait suffisamment de preuves pour les inculper? Si elles sont arrêtées à cause de leur... parce qu'elles professent être chrétiennes, est-ce qu'elles vont avoir suffisamment de preuves dans leur vie pour être véritablement inculpées? Beaucoup de pseudo-chrétiens feraient tout pour ne pas être arrêtés, justement, parce qu'ils ont peur de la persécution. Mais la persécution, donc, d'une part, elle va écarter, enlever les faux chrétiens, les pseudo-chrétiens, mais elle va fortifier les chrétiens dans leur foi. Et dans leur souffrance, ils vont crier à Dieu. L'adversaire a horreur de l'Église et il aime la persécution. Et au chapitre 12, nous avons vu que la bête, elle savait qu'elle a peu de temps. Elle savait qu'elle avait peu de temps. Mais elle va persécuter la femme. Elle va persécuter l'Église. Elle ne peut pas, la bête, elle ne peut pas s'empêcher de faire du mal à l'Église. Mais autant cette persécution est terrible à vivre, autant cette persécution va être un moyen pour fortifier l'Église. La persécution fortifie l'Église, c'est le sixième mot sur la feuille. Et le commandement que le Seigneur Jésus-Christ donne quand la persécution vient, nous l'avons vu au chapitre 2, verset 10, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à être fidèles, septième mot sur la feuille, même jusqu'à la mort, puisque pour le croyant, la mort est synonyme d'entrer dans la présence de Dieu. La mort est un gain, a dit l'apôtre Paul en Philippiens. Mourir m'est un gain, parce que nous entrons dans la présence de Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. L'Église doit donc s'attendre à la persécution, être prête à vivre, à connaître la persécution et regarder à Dieu pour lui être fidèle, même jusqu'à la mort. Mais la deuxième stratégie qu'utilise le monde est la corruption, et la corruption morale. Et c'est une stratégie qui est bien plus efficace. Quand on parle de corruption morale, on ne parle pas simplement d'une corruption purement extérieure, mais on parle ici d'une infiltration des valeurs. Huitième mot sur la feuille. Une infiltration des valeurs, une infiltration des doctrines, par exemple. Et l'exemple, ou le pionnier même de cette stratégie, c'est Balaam. Vous pouvez relire son histoire en Nombre, chapitre 22 à 25. Balak, le roi, a demandé à Balaam de maudire le peuple d'Israël et de le persécuter. Mais Dieu ne l'a pas laissé faire. Et chaque fois que Balaam ouvrait la bouche, ce n'était pas des malédictions qui sortaient de sa bouche, mais des bénédictions. Dieu n'a pas laissé Balak l'occasion de maudire et de persécuter le peuple. Alors qu'est-ce que Balak a fait? Balak a choisi la corruption. Et on lit au chapitre 25 qu'il a envoyé les filles de Moab. Et nous lisons, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Nombre 25, versets 1 et 2. Il y a l'infiltration de la corruption morale. L'immoralité, neuvième mot sur la feuille. L'immoralité qui va amener le peuple ensuite à se détourner de Dieu, à adorer des idoles. Et Dieu doit intervenir, il doit juger ce peuple sévèrement. La deuxième stratégie est la corruption et la corruption morale. Et le Seigneur Jésus-Christ mentionne cet épisode de Balaam dans la lettre adressée à l'église de Pergame. Nous l'avons vu en Apocalypse chapitre 2, verset 14. « J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. » Et beaucoup, même aujourd'hui, sont tombés dans ce piège. Ils parlent de liberté chrétienne et ils disent que la liberté chrétienne, c'est être libre de faire ce que je veux avec mon corps, pour mon bonheur personnel. Et même des gens dans le monde évangélique parlent de liberté chrétienne dans ce sens-là, mais c'est la doctrine de Balaam. Ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ils viennent ensuite commettre l'immoralité pour ensuite être amenés à commettre l'idolâtrie. Jésus a aussi mentionné Jézabel dans la lettre à Thyatire, Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et on a cette progression. Ils se livrent à la débauche, il y a l'immoralité, il y a la débauche. Et ensuite, avec l'immoralité, il y a l'infiltration de la fausse doctrine, dixième mot sur la feuille. En Apocalypse 2, verset 15, à l'église de Pergame, Jésus s'adresse en disant « De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » Et c'était une hérésie au sujet du salut. Et Paul avait mis en garde, dans sa lettre aux Galates, chapitre 1, verset 9, il avait mis en garde au sujet de ce danger, du faux enseignement. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Et aujourd'hui, on a beaucoup de lieux qui se disent évangéliques, qui sont infestés de toutes sortes de messages. On a le libéralisme, par exemple. Le libéralisme qui, de façon générale, dit que la Bible n'est plus l'autorité en matière de foi, de morale, de conduite. Non, la Bible doit être soumise à la critique du monde, des philosophies du monde. On doit pouvoir critiquer la parole de Dieu. On a le message de la prospérité qui affirme que le chrétien doit posséder toutes les richesses dans ce monde. Des grosses voitures, grandes maisons, plusieurs grandes maisons. Et pour eux, le salut, ça se voit comme ça, dans les richesses. On voit ces enseignants qui disent « Donnez à mon ministère et Dieu vous bénira ». Ou le langage qui est utilisé souvent aujourd'hui, c'est « Plantez une semence dans ce ministère et Dieu vous la rendra 10 fois, 100 fois, 1000 fois ». On a l'évangile, ce qu'on pourrait appeler l'évangile thérapeutique, qui est conduit par la psychologie de ce monde. On va minimiser le péché, minimiser les dangers du péché, la destinée, la voie vers laquelle mène le péché. Et on va minimiser l'appel à la sainteté, l'appel à vivre dans une sainteté, dans l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. C'est à dose homéopathique. C'est négatif, mais c'est ce que l'Église doit faire. Elle doit dire non à ces choses. Elle doit s'opposer à ces erreurs. L'Église qui ne se défendra pas, 11e mot sur la feuille, l'Église qui ne se défendra pas contre les influences immorales et contre les fausses doctrines, cette Église va tomber. Elle perdra de sa saveur. Elle n'influencera plus sur ce monde parce qu'elle aura été infiltrée par l'immoralité, infiltrée par la fausse doctrine. Nous avons dit que la persécution, d'une manière générale, rendait l'Église plus forte, mais l'immoralité et la fausse doctrine, au contraire, rendent toujours l'Église plus faible et inefficace. Toujours. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, en Matthieu 7, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Matthieu 7, verset 15 et suivant. Nous avons vu les abominations de cette grande prostituée, de la culture de ce monde, du système dans ce monde. Et l'application est assez évidente. Et nous la verrons en détail au chapitre 18, les versets 4 et 5. Sortez, 12e mot sur la feuille, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Sortez du milieu d'elle, ou pour reprendre l'image ici, ne buvons pas de cette coupe d'or que tient la prostituée dans sa main. Ne succombons pas aux séductions de cette prostituée. Alors cela nous amène bien sûr au troisième point. Comment vivre? Comment vivre dans ce monde? Nous avons vu les deux premiers, les deux stratégies qu'utilise ce monde, la persécution d'une part, la corruption de l'autre. Troisième point, comment vivre à ce moment-là dans ce monde? Et le meilleur conseil que nous avons dans la parole de Dieu pour vivre dans un monde comme le nôtre, dont le système ressemble à cette prostituée qui est là pour séduire et pour détruire. Comment éviter la pollution du péché? Comment éviter les séductions de la prostituée? Le meilleur conseil, 13e mot sur la feuille, nous l'avons dans le psaume 1er. Nous avons appris ce psaume il y a quelque temps. C'est un psaume qui ouvre le recueil, tout le recueil des psaumes. C'est le portail qui ouvre, qui décrit la vie, qui honore Dieu. Le meilleur conseil pour vivre dans ce monde pécheur, nous l'avons là, dans le psaume 1. Alors ça remonte à quelques semaines déjà. Est-ce que quelqu'un se rappelle comment le psaume commence? Ça remonte trop loin. C'est trop loin. Hein? C'est trop loin. Le psaume commence. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà le conseil. Voilà le conseil pour vivre dans ce monde pécheur, pour vivre à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais de manière générale, ce psaume souligne aussi que nous sommes tous, chrétiens ou non, nous sommes tous influencés, 14e mot sur la feuille, nous sommes tous influencés par nos associations. Ce que j'écoute, qui j'écoute, ce que je vois, ce que je regarde, ce que je permets à mes yeux de voir. Ce à quoi je prends plaisir dans ce monde. Et tout cela va avoir une influence sur mes actions. Et mes actions vont devenir des habitudes qui vont former mon caractère. C'est ce que le psaume nous dit dans ses premiers versets. Il y a ceux qui vivent près de ce monde, qui suivent les idées de ce monde, parce que pour eux, c'est important d'être à la page. Ils commencent à marcher dans le mode de vie de ce monde. Ils se retrouvent assis avec le monde et ils sont installés dans la corruption de ce monde, dans la débauche de ce monde. Mais il y a de l'autre côté ceux qui ne sont pas influencés par ce monde, mais qui sont influencés par la parole de Dieu, qui suivent le conseil de Dieu, ce conseil de Dieu qui remplit leur cœur. Et ils utilisent la parole de Dieu comme un plan pour comprendre ce monde dans lequel on vit. Ils suivent un mode de vie, non pas le mode de vie que le monde, dans lequel le monde veut nous séduire et aller, mais un mode de vie qui honore Dieu. Il n'y a que deux manières de vivre, 15e mot sur la feuille, deux vies différentes, avec deux destinées qui sont différentes. Nous l'avons cité tout à l'heure, nous avons lu ce passage en Matthieu 7. Le Seigneur Jésus-Christ utilise cette image en décrivant cela d'une autre manière. Il dit « Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. » Matthieu 7, versets 13 et 14. Il y a deux chemins. L'un est large, l'autre est étroit. L'un suit le conseil du monde, l'autre suit le conseil de la parole de Dieu. L'un mène à la mort, l'autre mène à la vie. Ce à quoi nous nous laissons exposer va affecter notre cœur et déterminer notre mode de vie. Et cela se voit tous les jours. dans nos écoles, dans la société, dans nos cinémas, devant nos écrans. Lentement, notre jeunesse, mais aussi les adultes, s'habituent aux séductions de ce monde et suivent les séductions de ce monde, s'installent dans les séductions, s'installent dans l'immoralité, dans la débauche de ce monde, la séduction de la prostituée. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas en train de dire qu'il est interdit de regarder des films, ou d'écouter de la musique, ou de lire des livres. Non. Mais selon la parole de Dieu, il nous faut avoir il nous faut faire une certaine discrimination. Il y a beaucoup de choses que nous ne devrions pas voir, ou pas entendre, ou pas lire, même pas lire. On peut lire un article dans un journal ou dans une revue, mais si elle va dans une mauvaise direction, on doit pouvoir dire stop, je ne vais pas aller plus loin. Je ne veux pas me laisser influencer par cet article qui m'emmène à avoir des idées qui ne sont pas honorables, qui ne font pas honneur à Dieu. Même chose pour les films. Est-ce que je vais m'autoriser à être influencé par le poison qui est là? Est-ce que je sais faire la différence entre ce que je vois et ce qui est vrai, ce qui est honorable à Dieu? Il faut être sage, il y a une sagesse à avoir dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on lit. Parce que comme nous l'avons déjà dit, le monde n'est pas neutre. Le système de ce monde est comme une prostituée qui veut séduire pour détruire. Le psaume 1 va continuer pour décrire ces deux modes de vie et ensuite deux destinées. Il continue au verset 3, celui qui suit la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. N'est-ce pas là le genre de vie que nous voulons? Une vie qui porte du fruit. Bien sûr, nous sommes pécheurs, nous sommes conscients d'être pécheurs, la parole nous le rappelle que nous sommes tous pécheurs, mais Dieu donne la vie par la foi en Jésus-Christ. 16e mot sur la feuille. La vie, nous l'avons par la foi en Christ. Et cette vie se voit, elle coule, elle porte du fruit. Il y a plusieurs images dans la parole qui soulignent cela. Et cette vie grandit, cette vie se fortifie dans le Seigneur. C'est la description de la vraie vie chrétienne. Nous devenons plus forts, toujours plus forts dans le Seigneur Jésus-Christ. Et l'opposé, nous l'avons au verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Il n'y a rien, rien de solide. Tout s'envole. Rien ne reste. Nous l'avons vu dans la maison, qui n'est pas bâtie sur le roc, qui est bâtie sur le sable. Elle semble solide, mais en fait, elle s'envole. Elle ne tient pas, elle ne résiste pas au jour de la tempête. Et puis le psalmiste termine en parlant de la destinée éternelle. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Il n'y a que deux chemins, deux manières de vivre, deux destinées. Et cette progression est déterminée par le conseil sur lequel on repose notre esprit. Verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quelles sont les influences que nous laissons agir sur nous? Est-ce que nous laissons le monde agir? Est-ce que nous laissons l'influence du monde être la plus importante dans notre vie? Est-ce que nous laissons le monde nous séduire? N'oublions pas que la coupe que nous tend ce monde a l'air belle, mais son contenu est horrible. La parole de Dieu, elle, nous invite à prendre son influence, à nous laisser être influencés par elle, par ce qu'elle donne la vie. Non seulement la parole de Dieu nous éloignera du péché, mais elle nous conduira à Christ. 17e mot sur la feuille. La parole de Dieu nous parlera du Seigneur Jésus-Christ. La prostituée, elle, veut que nous voyons sa beauté sensuelle, séductrice. La parole va nous révéler la beauté parfaite du caractère de Dieu, du caractère du Créateur, du Rédempteur, sa beauté, le sang qu'il a versé à Golgotha, le salut qu'il a accompli pour son peuple. C'est un sauveur qui est venu pour sauver les perdus, un rédempteur pour sauver ceux qui étaient condamnés, sauveur qui vient donner la vie à l'Église et qui vient préparer l'Église, la rendre belle pour ce jour où il viendra la chercher dans la gloire. Et son message s'appuie sur des promesses qui renversent le royaume de la prostituée, de la bête. Ces promesses qui sont bien plus grandes que tout ce que cette prostituée, tout ce que ce monde peut offrir, qui de toute façon ne sont que le monde n'offre que des promesses qui sont trompeuses. La parole de Dieu nous offre des promesses, nous donne des promesses, et nous avons des encouragements dans cette parole. J'en citais quelques-unes. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, versets 31-32. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture, Jean 7, versets 37 et 38. Paul, en 1 Corinthiens 8, verset 9, il écrit sans langue de bois, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et il va faire toute une liste dans les versets qui suivent. Il dit, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, etc., etc., n'hériteront le royaume de Dieu. Mais il va ajouter quelque chose qui est extraordinaire et qui est très encourageant. Il dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9 et suivant. Vous avez été lavés. Oui, vous êtes tombés très bas, mais par la grâce de Dieu, quand il nous réconcilie à Christ, il nous lave. Il nous lave de nos péchés. Il nous sanctifie. Il nous justifie. Le Seigneur Jésus-Christ se tient à la place que la prostituée veut occuper. Et il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, verset 10. Et le sang qu'il a sur ses vêtements, c'est son propre sang qu'il a versé à la croix de Golgotha. Ce n'est pas le sang d'autres personnes. Apocalypse 17, donc, ces premiers versets nous disent qu'une partie de la clé pour vivre une vie qui plaise à Dieu est de voir ce monde pour ce qu'il est réellement. Une prostituée. Une prostituée avec toute son horreur. Elle est assise sur la bête. Ce monde est trompeur. Ce monde veut séduire. Ce monde cherche à détruire. Mais à la place de la prostituée, ou à la place que cherche à occuper la prostituée, à la place de regarder à la prostituée, nous devons regarder au Seigneur Jésus-Christ et voir la beauté du Seigneur Jésus-Christ, 18e mot sur la feuille. La beauté du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur qui aime son peuple, le Sauveur qui s'est donné pour réconcilier ce peuple, pour racheter ce peuple, pour racheter tous ceux qui croient en lui. Mais voir non seulement la beauté du Seigneur Jésus-Christ, voir la beauté de ceux qui croient en lui, la beauté de ceux la beauté qu'il donne à ceux qui croient en lui, de ceux qui, par la foi, boivent, non pas la coupe de la prostituée, mais la coupe de la vie éternelle, la coupe que le Seigneur Jésus-Christ donne. Et David le savait, le roi David le savait. Et sa conviction était sans doute le meilleur remède contre les pièges de séduction de ce monde. Il l'a dit dans le psaume que nous avons lu tout à l'heure, le psaume 16. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Nous ne devons pas regarder à ce monde, aussi séduisant qu'il soit-il. La description que nous avons, elle est là, avec tous les habits impressionnants, avec la parure d'or et de perles. Nous n'avons pas regardé à ce monde, à cette prostituée. Nous devons voir ce monde pour ce qu'il est. Ne pas nous laisser influencer par les mensonges et les séductions de ce monde. Mais au lieu de regarder à ce monde, de regarder à Christ. Et de voir la beauté parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Et de nous laisser guider par sa parole, par son esprit. Et de pouvoir, avec tous les croyants, nous réjouir de ce jour où nous serons dans sa présence. Où il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mal, plus de séduction mauvaise. Et où nous serons dans la gloire, nous connaîtrons la joie sans fin. Nous serons avec lui pour toujours. Que Dieu donc nous aide, qu'il nous aide à être de ceux qui sont décrits dans le psaume premier, qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoient pas en compagnie des méchants, des moqueurs, ou qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assoient pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit. Que Dieu nous aide donc et qu'il fasse que nous soyons de ces personnes vivant pour sa gloire. Amen.